Allez, je tire 200. Fric, thune,
pognon,
oseille,
la moula,
grisby,
salaire,
honoraire,
prime,
pension de retraite,
livret A,
héritage,
assurance vie,
impôt,
déduction,
investir,
bitcoin,
crédit,
intérêt,
SCPI,
plan d'épargne action,
PER,
travailler, se marier, se paxer, ou vivre en union libre, fonder une famille, épargner, acheter un appartement ou une maison. Autant d'étapes de la vie, mais aussi, trop souvent, d'occasions de s'appauvrir, voire de se faire avoir pour les femmes mal informées. Mais il n'est jamais trop tard pour se poser les bonnes questions sur sa situation financière et sur son patrimoine actuel ou à venir. Et tant qu'il en est encore temps, mettre en place des stratégies d'épargne et d'investissement pour éviter de se réveiller un jour complètement fauché, voire spolié. Bien sûr, l'argent concerne les hommes comme les femmes. Mais dans ce podcast, nous allons poser un regard spécifique de femmes, de mères, de filles sur l'argent. On ne vous racontera pas pour la énième fois l'histoire de l'émancipation économique des femmes. Vous avez déjà lu partout que les femmes ont attendu 1965 pour avoir le droit d'avoir un chéquier à leur nom. En revanche, si ce que vous raconte votre banquier vous paraît obscur, complexe, ce podcast est fait pour vous. On ne vous conseillera jamais d'acheter tel ou tel produit financier. On ne vous promettra pas non plus que vous pourrez prendre votre retraite à 35 ans fortune faite. Mais nous vous aiderons à peser le pour et le contre avant de prendre une décision qui engage vos sous. Je suis Corinne Goldberger, journaliste. Tous les 15 jours, avec Thierry Wayon, auteur de « Les filles, osons parler d'argent », nous répondons avec pédagogie et sans tabou aux questions que se posent les femmes de toute génération sur leur argent, avec nos expertes et nos experts. Comme le dit souvent Thierry, pensez d'abord à votre peau. Alors maintenant qu'on s'est dit tout ça, parlons cash les filles.
Tout le monde a déjà plus ou moins entendu parler de financement participatif ou crowdfunding en anglais. C'est la copine qui aimerait récolter des fonds pour créer un jeu de société féministe ou une ligne de t-shirt made in France ou une agence de voyage éco-responsable. Quel habitué des réseaux sociaux n'a jamais reçu une proposition de participer sur une plateforme en ligne à la création d'un projet artistique en donnant une petite somme, par exemple pour l'édition d'un livre, le tournage d'un premier film ou documentaire ou le montage d'un spectacle? Qui n'a jamais été invité à participer à la commercialisation d'un service ou d'un produit souvent innovant, écolo, bio, naturel, durable, équitable, solidaire, citoyen, engagé, féministe, en circuit court, à impact comme on dit? Comme la proposition nous arrive aussi souvent par mail, via une copine ou la copine d'une copine, c'est d'ailleurs souvent compliqué de ne pas mettre la main à la poche. On ne veut pas passer pour radine, ni pour celle qui s'en fout de la grande cause de la copine. Alors, le crowdfunding, on voit donc toutes plus ou moins ce que c'est. Les plateformes les plus connues sont Ulule, KissKissBankBank, Indiegogo. Mais comment ça marche du côté de l'entrepreneuse qui cherche à financer son projet, sa start-up? Pour nous parler du crowdfunding, nous recevons aujourd'hui Lucille Tauvel, en charge de l'équipe d'accompagnement de l'ensemble des campagnes qui se lancent sur la plateforme bien connue Ulule. Bonjour Lucille.
Bonjour.
Bonjour Thierry.
Bonjour.
Et bonjour Léo à la technique. Alors, première question. Lucille, tout le monde a donc déjà plus ou moins entendu parler de financement participatif en ligne ou crowdfunding, qui signifie donc financement par la foule en anglais. Mais plus précisément, qu'est-ce que le crowdfunding et comment ça marche côté créatrice, porteuse de projet?
Alors le crowdfunding, c'est en effet le moyen de venir faire financer son projet par le grand public. Donc c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Nous, on aime bien raconter que, en fait, historiquement, on parlait de souscription publique.
Oui.
Mais plein de monuments ou d'événements ont pu être financés par ce biais-là. On donne souvent l'exemple du parc des Buttes Chaumont à Paris, par exemple,
ou
voilà, le socle de la Statue de la Liberté aussi à New York, la Sagrada Familia plus récemment à Barcelone.
Oui.
Tout ça, c'est des choses qui ont été financées par la souscription publique. La différence, c'est qu'aujourd'hui, avec les plateformes en ligne comme Ulule, les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus simple, rapide et universel de venir faire financer son projet. Vous mettez votre campagne en ligne et en 30-40 jours de campagne, vous pouvez collecter les fonds pour financer votre projet. Donc c'est ça le principe qui existe depuis très longtemps. Je propose mon projet, j'en fais parler autour de moi et je récolte des fonds auprès d'un réseau de personnes qui me connaissent ou pas forcément. Donc le premier intérêt, il est financier, bien sûr. Mais au-delà de l'aspect financier, ce qui est intéressant, c'est quand on mène une campagne de crowdfunding, c'est aussi de faire parler de son projet, de fédérer une communauté autour de ce projet. Il y a tout un tas d'aspects non financiers qui sont intéressants quand on mène et lance une campagne.
Vous parlez de réseaux sociaux, de communautés. Comment on fait quand on a l'idée du siècle, en admettant qu'on ait l'idée du siècle, un super projet, mais que aller sur les réseaux sociaux, passer sa vie à faire campagne pour son projet sur Instagram, ça vous emmerde? Vous n'êtes pas du tout réseaux sociaux, on fait comment? C'est possible de faire une campagne de crowdfunding si on n'est pas réseaux sociaux, si on n'aime pas ça?
Alors, c'est possible, mais c'est sûr que c'est plus compliqué. Malheureusement, au-delà du projet, il y a aussi d'autres choses qui rentrent en compte pour pouvoir réussir sa campagne de crowdfunding. C'est des plateformes digitales, la communication autour du projet passe beaucoup par les réseaux sociaux. Ce n'est pas le seul levier, ce n'est pas le seul canal de communication que vous avez pour parler de votre projet, mais ça reste un des principaux canaux. Donc, si c'est pas le cas, il faut soit bien s'entourer, trouver des gens qui peuvent nous aider à faire parler du projet en ligne, ou comme essayer via d'autres canaux de communication d'essayer de toucher son public. Mais c'est sûr que la communauté que vous allez pouvoir réussir à fédérer autour de vous et à engager, elle est très importante parce qu'elle agit comme caisse d'amplification, en fait, du succès potentiel de votre projet. Le crowdfunding, c'est beaucoup de personnes, en réalité, qui soutiennent un projet. Plus vous allez réussir à les embarquer dans l'histoire de votre projet, dans l'aventure de la campagne, plus vous aurez de chances que derrière, au-delà de leur contribution, de leur soutien financier, ils parlent du projet autour d'eux. C'est comme ça que l'effet boule de neige peut se mettre en place. C'est comme ça que d'autres personnes peuvent entendre parler du projet. Sans cette communauté, sans cette caisse de résonance, même avec l'idée du siècle, malheureusement, c'est rarement suffisant.
Alors peut-être d'ailleurs, j'étais en train de me dire que dans le budget prévu, et la somme qu'on va demander justement sur la plateforme, il faut peut-être prévoir la rémunération de collaborateurs comme community manager, par exemple, si on est allergique aux réseaux sociaux.
Oui.
Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il faut impérativement faire le point avant de se lancer, bien budgétiser tout, ce que le projet va nous coûter, ce que la campagne va éventuellement nous coûter, effectivement, si on doit faire appel à des personnes qui nous aident sur tel ou tel aspect du projet. En général, ça se fait aussi par entourage, connaissance. C'est souvent un moment aussi où on fait appel à son cercle pour pouvoir s'entourer et puis faire appel en fonction de son équipe, des gens qui nous aident dans la campagne, réfléchir, qui pourrait m'aider par exemple à faire ma vidéo de campagne, qui pourrait m'aider sur la partie graphisme pour faire ma page. Mais il faut effectivement penser à tous les coûts qui seront nécessaires dans le cadre de la réalisation de ce projet. Pourquoi ? Parce que nous, on vous conseille vraiment, quand vous lancez une campagne, de définir votre objectif en partant sur l'objectif minimum dont vous avez besoin. Voilà. Oui. Et l'idée étant d'atteindre le plus vite possible cet objectif. Et derrière, de dépasser l'objectif. Par exemple, si vous me dites, pour lancer ma marque de t-shirt
Made
in France, en coton,
avec slogan féministe.
Avec slogan féministe, par exemple. Ça fait penser à une marque qui s'appelait Pourquoi Princesse, où c'était une marque de mode pour petites filles, avec des robes où vous aviez des cosmonautes, des dragons, tout un tas de...
C'était une campagne Ulule ?
C'était une campagne Ulule qui a été financée il y a quelques années. Et en fait, c'était une maman qui avait lancé ça puisque sa fille lui demandait une robe avec des dinosaures. Et en fait, c'était impossible à trouver. Une robe également avec des cosmonautes. Et c'était pour un petit peu dégenrer, déstéréotyper les vêtements pour les petites filles. Donc si vous nous dites « j'ai besoin de 5 000 euros pour lancer la première production pour une série de 100 robes, par exemple », l'idée, c'est vraiment de calculer vos coûts en budgétisant pour la production, pour la logistique, pour les personnes qui travaillent avec
vous. C'est pas évident, d'ailleurs, si on n'a pas fait une école de commerce ou si on n'est pas, aidé.
Ça veut dire qu'il faut faire un vrai business plan.
Business plan. Hein. Ouais.
Une campagne, ça demande beaucoup de compétences différentes au préalable. Et absolument. C'est pour ça que nous, on conseille vraiment de bien s'entourer parce que, les gens, il y a aussi beaucoup de gens qui... apprennent sur le tas en autodidacte, vont eux-mêmes faire ils vont préparer leur page eux-mêmes, ils vont faire les graphismes eux-mêmes. Enfin, tout peut être aussi fait de manière artisanale. C'est aussi ça que certaines personnes aiment quand ils soutiennent des projets.
Alors, je suis allée voir sur la plateforme Ulule pour voir quel genre de projet on trouve. C'est extrêmement varié. J'ai regardé aussi les sommes qui ont été demandées, les sommes qui ont été vraiment récoltées. J'ai vu un projet axé sur la santé naturelle qui s'appelle NutraStream, qui regroupe autour d'un média une appli, plus un complément alimentaire. Et donc, NutraStream cherchait un financement à hauteur de 80 000 euros et a déjà réuni 138 392 euros. Objectif atteint, donc. J'ai vu aussi la société Un Toit pour les abeilles, qui a déjà réuni 42 924 euros. L'objectif initial, c'était 25 000 euros. C'est une société, d'ailleurs, qui veut révolutionner le secteur du miel avec un pot 100% français et végétal pour réduire drastiquement l'empreinte carbone des pots en verre. Donc, c'est très varié, tout ça. Et alors, j'ai regardé prioritairement ce que proposent les femmes. Par exemple, j'ai vu qu'on peut prévendre donc un produit. Par exemple, Corrigan, c'est une maman qui a prévendu une BD qui s'appelle « D'amour et de lait », qui raconte l'histoire d'un allaitement familial. Donc, si je comprends bien, on donne une somme, mais en remerciement du don, on peut recevoir
des objets
en prévente.
Tout à fait. C'est ce qu'on appelle des contreparties.
Des contreparties.
En jargon crowdfunding. Et donc, dans le cadre de prévente, ce qui se fait souvent, voilà, on a beaucoup de projets d'édition sur Ulule, des gens qui veulent auto-éditer des livres, des BD, des romans graphiques. Donc, c'est le cas de Corrigan, qui est illustratrice. Donc, vous pouvez précommander la BD et donc voilà, recevoir en échange de votre don la BD. Vous avez bien sûr tout un tas d'autres contreparties. Vous pouvez avoir des versions dédicacées, d'anciens livres qui sont proposés, etc. etc. Donc oui, il y a ces deux modes. Il y a la prévente où vous lancez un produit livre, mais aussi marque de mode, marque de cosmétique, marque de produits alimentaires, vous prévendez vos produits, donc les gens préachètent ce que vous allez produire. Et vous avez aussi de la collecte de dons purs sans nécessairement proposer de contrepartie.
C'est le coup de cœur, je donne.
Voilà,
ça s'appelle sans...
le soutien à un proche.
Voilà. Sans contrepartie, c'est le coup de
cœur. Le soutien à un proche ou le soutien à une initiative.
C'est ça qu'on appelle le love money.
C'est l'argent qu'on va chercher auprès de ses proches. Parce qu'en fait, en crowdfunding, pour que ça puisse fonctionner, les gens n'ont pas forcément tout le temps en tête. Et c'est une des raisons aussi qui fait que des campagnes peuvent ne pas marcher. C'est qu'en fait, avant de pouvoir espérer toucher du grand public, des gens qui ne vous connaissent pas, qui n'auraient jamais entendu parler de votre projet, il va falloir, dans un temps 1, réussir à convaincre ce qu'on appelle votre premier cercle. Donc, ça va être votre réseau de proches, famille, amis, ou bien des gens qui suivent le projet depuis très longtemps. Des gens qui, en fait, contribueraient les yeux fermés avant même que vous ayez une page avec une jauge et un nombre de contributions engageants.
Qu'est-ce que vous appelez la jauge ?
Alors là, oui, c'est vrai qu'on ne visualise pas forcément ce à quoi ça ressemble. Une campagne de crowdfunding, donc ça a généralement une durée limitée dans le temps, ça dure 30-40 jours. Et vous avez un objectif financier ou de prévente que vous vous fixez à atteindre dans ce délai. Et donc, vous avez une petite jauge qui monte, voilà, si vous avez comme objectif... par exemple, dans l'exemple de la BD de Corrigan, c'était 100 préventes de mémoire à aller chercher. Ben, voilà, si elle va récupérer 50 préventes dans les deux premiers jours, elle aura une jauge à 50%. Et donc, cette jauge, en fait, elle est assez clé. Ça crée un effet assez psychologique, en fait, en crowdfunding. Et c'est pour ça que c'est clé et très important d'aller fédérer d'abord son premier cercle, d'aller chercher de la love money, parce que vos proches, a priori, ils vous donneront, même s'ils arrivent sur une page avec une jauge basse et peu de contributions, mais par contre, des gens qui vous connaissent peu, voire pas du tout, ils seront beaucoup moins engagés et incités à contribuer s'ils arrivent sur une page de collecte où il y a une jauge à 2% avec deux contributions.
Ils se disent que ça doit être nul comme
exactement.
Projet. D'ailleurs, personne ne contribue.
Bah, c'est assez psychologique. Mm-hmm. On appelle ça l'effet restaurant vide, restaurant plein.
On le prête corrige.
En crowdfunding. c'est assez psychologique. Plus vous voyez de contributions, plus vous voyez une jauge haute, plus il y a un effet crédibilité.
Quand on connaît aucun restaurant dans la ville où on débarque, on va dans celui où il y a du monde.
Exactement. Et si à côté, il y a un restaurant, même si la carte a l'air sympa, que le lieu vous plaît, bon, si vous voyez personne dedans, intuitivement, il y a beaucoup de gens qui vont se dire « Ouf, bah, il est peut-être bizarre ». C'est comme aussi tous les systèmes de notation, en fait, aujourd'hui... quand on a des lieux, des restaurants, quand on cherche un restaurant dans un endroit qu'on ne connaît pas, on va plutôt avoir tendance à aller là où c'est bien noté, là où il y a beaucoup d'avis. C'est pareil en crowdfunding. Les pages, les projets qui sont attirantes, c'est celles où il y a déjà du monde et une jauge qui donne envie. Donc, votre capacité à aller chercher de la love money et à fédérer derrière des gens sur votre page, sur votre projet, c'est clé parce que sans ça, vous n'arriverez pas en fait à passer l'étape supérieure qui est de faire connaître plus largement le projet.
Ok, alors dans quel cas recourt-on au crowdfunding plutôt qu'à un prêt ? On a lu qu'il est particulièrement adapté pour les créateurs, les repreneurs d'entreprises, les PMI, les jeunes entreprises innovantes, qui peuvent rencontrer des fois des difficultés à mobiliser des fonds via des modes de financement traditionnels. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur ce sujet-là ?
Oui, effectivement, le crowdfunding, c'est pour un certain nombre de projets un mode de financement alternatif pour des gens qui n'auraient pas pu avoir recours à d'autres financements via d'autres biais.
Ce sont des gens à qui la banque a refusé leur prêt à la création d'entreprise.
Tout à fait. Alors, sur des secteurs très particuliers, j'ai un exemple un peu spécifique, mais on a eu récemment beaucoup de campagnes de projets autour du bien-être sexuel. C'était beaucoup porté par des femmes, d'ailleurs. Oui. Récemment, on a eu une marque de sextoy qui s'appelle Puissante.
Oui.
Bon, Marie, donc, elle est venue chez
Puissante.
Nous. Puissante. Elle est venue chez Puissante. Nous parce qu'en fait, aucune banque ne voulait financer ce genre de marque. Donc, ça peut être effectivement une raison. Après, il faut avoir en tête que le crowdfunding, c'est souvent une brique dans un business plan financier plus global. Ça ne finance pas toujours en totalité un projet. Il y a des projets qui peuvent être financés en totalité par un crowdfunding. Ça va vraiment dépendre de ce que vous voulez faire.
Non, mais vous l'avez bien dit à l'instant. C'est une brique dans la construction globale du projet. Et ça, c'est super intéressant.
Tout à fait.
Parce que dans ce que j'entends finalement aujourd'hui, c'est quand même... Enfin, le crowdfunding, c'est une forme de marketing digital financiarisé. Enfin,
Exactement. C'est aussi, en fait, au-delà du financement, il y a beaucoup de créateurs, créatrices qui viennent faire une campagne pour que ça peut leur apporter en termes de communication, en termes de lancement marketing. Exactement. Ouais. Il y a aussi... historiquement, il y a encore aujourd'hui une très grande majorité des gens qui font des crowdfunding parce que la raison principale, c'est qu'ils ont besoin de fonds pour lancer ce projet et qu'ils ne peuvent pas le faire sans ça. Mais il y a aussi des gens qui le font pour tous les effets non financiers communautaires et en termes de com' que ça peut apporter. C'est vraiment un coup de projecteur sur votre campagne. Donc voilà, c'est de plus en plus intégré dans des stratégies de lancement de marque, de lancement de produits.
J'ai vu que même Orange lançait une campagne de crowdfunding chez Ulule.
Il y a très longtemps, oui, on a quelques grandes marques qui ont testé le
Orange,
crowdfunding.
Pas la copine à côté qui lance sa ligne de t-shirt.
Ouais.
Orange.
Après, ça dépend aussi des secteurs, mais on a aussi même maintenant des secteurs pour lesquels ça fait partie de leur modèle économique à part entière, comme les maisons d'édition, les médias.
Tiens, une anecdote personnelle, votre histoire de sextoy puissante, ça me rappelle ce que m'ont raconté plusieurs fois des lanceuses, enfin des créatrices de projets, des porteuses de projets, tournant autour de produits très féminins, touchant à l'intimité féminine, et ce qui se passait quand elles devaient pitcher devant des banquiers, devant des business angels qui étaient tous masculins. Alors là, j'imagine bien la porteuse de projet qui doit pitcher son sextoy devant une brochette de business angel rigolard. Je me rappelle, je pense toujours à elle, Madame Piche, qui a lancé un urinoir pour femmes qu'elle vend dans les festivals, par
exemple. Le pisse debout.
Voilà.
Bah, qui était financé sur Ulule aussi, en partie.
Ah bon, alors vous connaissez Madame Pi. Et je me rappellerai toujours cette interview quand elle me racontait comment ça se passait avec les business angels, quand elle devait leur expliquer le truc. Et des histoires comme ça, j'en ai plein. Une question par rapport à ce que vous venez de dire, là. Ça peut être donc, par exemple, des porteurs, des porteuses de projets qui n'ont pas pu être financés d'une manière classique. Mais est-ce qu'il y en a qui choisissent, qui ne veulent pas être financés par une banque parce qu'elles ne veulent pas de crédit, par exemple ? Elles ne veulent pas avoir à rembourser un crédit avec des intérêts en plus ?
Tout à fait.
C'est un choix.
Surtout dans le secteur culturel. Sur Ulule, il y a beaucoup de projets liés au secteur culturel, donc voilà, des projets artistiques, que ce soit audiovisuels, musicaux, dans l'édition, les médias, etc. Et donc, en fait, passer par le crowdfunding, ça vous permet de garder une certaine forme d'indépendance. Et donc, effectivement, en s'autofinançant, vous restez maîtresse de vos contenus, de votre ligne éditoriale, de tout un tas de choses. Donc, on a beaucoup d'artistes, créateurs, créatrices de contenu, illustrateurs, illustratrices, qui font le choix du financement participatif pour rester, encore une fois, indépendants de A à Z dans leur projet. Donc, oui, tout à fait.
Puisqu'on parle de femmes dans ce podcast, concernant justement le pourcentage de femmes qui recourent au crowdfunding pour financer leurs projets par rapport aux hommes, est-ce que vous avez autant de femmes que d'hommes qui recourent au crowdfunding? Est-ce que vous le savez? Et est-ce que vous constatez des différences entre les projets qui sont portés par les femmes par rapport aux projets portés par les hommes, par exemple? Est-ce que les femmes présentent plus de projets ou de produits ou services s'adressant aux femmes, aux enfants, la famille, la santé? Je dis ça parce que j'ai vu passer des projets comme, par exemple, des ventes de culottes menstruelles à petit prix, enfin, beaucoup de projets comme ça qui touchent à l'intimité. J'ai un peu l'impression que les femmes qui recourent au crowdfunding, elles portent des projets un peu typiquement féminins. Ou alors, est-ce que c'est un cliché?
Alors, ce qui se passe, c'est que très souvent, effectivement, les projets qui sont lancés, souvent le porteur ou la porteuse de projet s'est lancé parce qu'il voulait répondre à un besoin auquel il a été lui-même confronté. Donc effectivement, tous les projets de culottes menstruelles qui ont été lancés, tous les projets qu'on a aussi de plus en plus autour de la santé de la femme, on a beaucoup de projets qui détabouisent aujourd'hui le postpartum, qui parlent de préménopause. Hein, voilà, on a beaucoup de projets en tout genre autour de la santé de la femme. Sont effectivement très souvent portées par des femmes et ça paraît normal puisque enfin voilà elles ont été confrontées directement et c'est ce qui fait qu'elles se sont lancées. Après on n'a pas nécessairement beaucoup de stats et fait beaucoup d'études là-dessus, donc c'est plutôt des observations empiriques de ce que
sur la proportion de femmes et d'hommes.
Dans la proportion par contre on avait fait une étude d'impact il y a quelques années et sur un échantillon assez représentatif on avait vu que globalement, on était sur du 50-50
ah oui,
en termes
bien.
De projet. Et bah, c'est qu'on en était c'est assez fiers parce que dans l'entrepreneuriat au global, bah c'est ouais, rarement ces proportions.
Oui.
Nous, c'est vrai qu'on a la sensation que, bon, même s'il y a quand même des freins hein, à se lancer en crowdfunding, on l'a dit, ça demande quand même d'avoir un peu des compétences en tout un tas de choses, créer une communauté, s'y connaître un peu sur les réseaux sociaux. Il y a tout un tas de choses à savoir gérer. Bon, ça reste quand même un moyen de financement accessible normalement à toutes et tous. Et donc, effectivement, on était assez fiers de voir qu'il y avait autant de femmes que d'hommes qui se lançaient en crowdfunding.
Alors, qu'est-ce qu'on peut financer exactement avec du crowdfunding? On peut acheter du matériel, on peut payer une campagne sur les réseaux sociaux pour donner de la visibilité à son entreprise, payer les premiers salaires de collaborateurs. Vous parliez aussi de projets éditoriaux. Moi qui écris 2 bouquins sur mes fonds propres, je pourrais lancer une campagne de crowdfunding pour financer mon prochain bouquin. non, mais ça fait partie des questions qu'on se pose, quoi.
Tout à fait. Et dans ce cadre-là, pour les projets d'édition, c'est souvent les frais d'impression qui vont être financés en crowdfunding.
Ah, ça, c'est pour les gens qui s'auto-impriment,
qui s'auto-éditent. En réalité, l'allocation de ce que vous allez collecter, elle peut être diverse et variée. Ce qu'il faut garder en tête, simplement, c'est que le crowdfunding, c'est avant tout de la transparence. Les gens qui vous donnent de l'argent, ils vont vouloir savoir dans quoi vous allez l'investir. Donc, c'est impératif d'être très concret et très transparent sur.
Alors, qui fait le reporting de ça? Donc, j'ai fait une promesse. J'ai dit, voilà, je vais faire tel projet.
Tout à fait.
Vous allez m'aider à financer tel type d'activité à l'intérieur de ce projet. Est-ce que je dois un jour faire le reporting?
Qui vérifie?
Oui, mais non. Qui vérifie? Mais probablement, c'est à moi qui ai reçu ces sommes d'argent à faire un reporting à ces gens.
Tout à fait, oui.
Et je dirais même plus loin que toi, je me pose la question en t'écoutant. Est-ce qu'il peut y avoir des arnaques? C'est-à-dire, quelqu'un lance un pseudo-projet bidon et en fait, bon, ben... la personne part avec les 50 000 et puis ceux qui ont contribué ne voient jamais la couleur du projet.
Alors, c'est assez rare les arnaques pour tout un tas de raisons parce que, en fait, comme voilà, on l'expliquait au début, il faut une communauté, il faut aller solliciter des gens. Et donc, si de base, vous n'avez pas tout ça, ça va être très difficile sur un projet arnaque de réussir à engager des gens et de leur faire croire, de leur vendre votre beau produit, votre belle histoire. Donc, sur plus de 45 000 projets financés sur Ulule en 10 ans...
45 000 projets.
Il n'y a jamais eu de cas d'arnaque réelle, véridique.
Super.
Et avérée.
Magnifique.
Et sur le reporting, en fait, comment ça se passe? En fait, c'est le porteur ou la porteuse de projet qui est engagé moralement vis-à-vis de ses contributeurs et de ses contributrices.
D'accord.
La plateforme, nous, on est l'intermédiaire. Donc, nous, notre rôle, c'est vraiment de veiller à la collecte des fonds de manière sécurisée, de vous coacher, de vous accompagner dans votre campagne. On vous verse les fonds si vous atteignez votre objectif ou si vous le dépassez. On rembourse les gens si jamais... c'est pas le cas si vous n'avez pas réussi à collecter suffisamment pour développer le,
on rembourse, le projet. Alors.
Voilà, dans le cas où vous, vous proposez des produits en échange, on rembourse. Et ensuite, c'est vous, tant que porteur ou porteuse de projet, qui en fait êtes engagé juridiquement, légalement, à soit livrer les contreparties promises, ce que vous aviez dit que vous donneriez aux gens en fonction
donc,
des gens.
Donc, animer la communauté, quoi.
Exactement, et puis voilà, répondre à vos engagements. Ou bien, si jamais voilà, il s'est passé des choses qui ont fait que l'épicerie que vous aviez prévu d'ouvrir, je dis n'importe quoi, finalement...
Il y a le Covid,
voilà. Donc, voilà, vous devez...
Il y a eu.
Voilà, si vous avez touché les fonds, vous êtes engagé à soit livrer ce que vous avez promis, soit rembourser les gens.
D'accord.
Voilà.
Donc, ça veut dire que moi, porteur de projet, je reçois de la part de Ulule un listing de gens qui ont contribué au financement de mon opération. Et ensuite, je vais repasser par Ulule pour les remercier ou bien je vais aller directement...
La liste de contact, elle est à vous. C'est à vous de mettre en œuvre le projet et de réaliser les engagements que vous aviez promis aux personnes qui vous ont soutenu.
Parfait.
Voilà.
On peut récolter jusqu'à quelle somme légalement en crowdfunding? Alors, je ne sais pas si c'est partout pareil sur toutes les plateformes ou s'il y a une obligation légale, une somme qu'on n'a pas le droit de dépasser.
Il n'y a pas de limite. La limite, c'est l'infini. Pour vous donner une idée, le record sur Ulule, c'est une campagne qui a levé plus de 1 300 000 euros.
Oui.
C'était en 2021. C'est un média qui s'appelle Epsilon.
Oui.
Ils ont réussi à faire cet exploit parce qu'en fait, c'est l'ancienne équipe de rédaction de Science et Vie.
Ah oui, ça.
Suite au rachat de Science et Vie, ils ont décidé de monter eux-mêmes leur propre magazine d'actualité scientifique pour garder une indépendance.
Alors, ils existent toujours ?
Ils existent toujours, ouais, tout à fait. Et donc, voilà, pas de maximum. On a des collectes sur Ulule, des gens qui collectent entre 500 et 1 million. Il y a une fourchette très très large de projets.
Sky is the limit.
Tout à fait, sky is the limit.
Donc, on vient, on a un objectif à financer qui est à la fois réaliste ou pas réaliste. On couvre ses besoins immédiats, on en fait son business plan, mais à quel moment, à l'intérieur de ce projet global, on va définir le montant des sommes qu'on va chercher à collecter? Parce qu'un porteur de projet peut être raisonnable, trop raisonnable, et ou pas du tout raisonnable. Ouais.
Et je compléterai la question de Thierry, c'est est-ce qu'il y a des coachs chez Ulule qui aident les porteuses et les porteurs de projets à déterminer la bonne somme à demander? Parce que combien je demande? 5 000, 10 000, 500 000, 1 million
Tout à fait. Alors en fait, il y a deux étapes. La première, c'est de faire une proposition de projet. Vous avez un court formulaire sur lequel on va vous demander quel est votre projet, qu'est-ce que vous voulez collecter, quelle est la fourchette financière dont vous avez besoin. Enfin, on vous demande tout un tas d'informations. Et en fonction de ces éléments-là, on traite la demande, on voit si le projet, oui ou non, est éligible sur la plateforme. Et si votre projet est accepté et éligible, là, vous avez effectivement... un coach qui vous a affecté. Tous les projets éligibles ont accès à un accompagnement personnalisé. Ah, et donc, vous pouvez...
Donc, un projet, un coach.
Un projet, un coach, tout à fait. Et donc, nous, notre rôle, c'est vraiment ça, c'est de vous faire des recommandations tout au long de votre campagne, donc pendant la préparation, pendant une fois que vous êtes aussi en ligne. Avant de passer en ligne, donc vous avez la main, c'est vous qui déterminez votre objectif, les contreparties que vous souhaitez proposer, la description de votre projet. Vous avez tout un tas d'outils en ligne pour vous aider à ça. On vous envoie aussi des exemples de campagnes similaires pour vous aider.
Ulule, c'est une organisation, c'est un coach accompagnant quoi, sur le projet pour les porteurs de projet.
La plateforme se rémunère en prenant des fonds sur les fonds collectés. C'est aussi ça que ça comprend, c'est à la fois l'utilisation de la plateforme, de l'outil de collecte en ligne sécurisé des fonds, mais aussi l'accompagnement. Et donc au moment où votre page vous semble prête, vous avez défini toutes les modalités importantes. On va vous faire des retours sur l'ensemble des points et on va justement venir vous dire là, attention, l'objectif, en fonction de ce que tu as renseigné, de la communauté déjà existante que tu sembles avoir, etc., nous paraît un petit peu ambitieux. Est-ce que avec votre réseau, votre Love Money, est-ce que vous pensez pouvoir aller chercher les premiers 30%, etc. Donc, on accompagne
Ou le contraire, c'est pas assez ambitieux.
Ça peut, même si en fait la logique en crowdfunding va être plutôt de partir sur l'objectif minimum dont on a besoin, l'atteindre le plus vite possible et de le dépasser par palier. Parce que cet effet psychologique, il marche dans les deux sens. C'est-à-dire que vous arrivez sur une page avec une jauge très basse et deux contributions, ça ne donne pas envie. Mais à l'inverse, vous arrivez sur une page avec une jauge qui est déjà à 200, 300, 400%. Il y a cet effet qui est, voilà, je veux en être.
Je suis avec la winneuse ou le winner.
Exactement. Et donc, en fait, c'est pour ça que c'est...
J'y étais, j'en ai fait partie.
Exactement.
J'ai cotisé. Ouais.
Exactement.
J'ai contribué.
Je les ai aidés à atteindre le Xème palier supplémentaire. Et donc, c'est pour ça que cette stratégie de ce qu'on appelle la stratégie de palier de dépassement. Donc voilà, j'ai mon objectif de départ qui est par exemple 5 000 euros. Mais ensuite, si j'atteins 7 500 euros, je fais telle chose en plus. Si j'atteins 10 000 euros, je fais telle chose en plus. Ça vous permet de gamifier de votre campagne. Souvent aussi, vous pouvez débloquer potentiellement des choses pour les gens. Donc, par exemple, si on reprend l'exemple de la BD de Corrigan sur l'allaitement, si elle atteignait 200 ou 300%, vous aviez un petit marque-page qui était offert en plus pour tout le monde. Voilà, il peut y avoir des choses pour venir récompenser...
Ça stimule.
Récompenser. Voilà.
Ça stimule les contributeurs. Les donateurs.
Voilà. Ou même améliorer le projet. Dire, par exemple, la BD, je l'ai fait, mais il y aura X pages en plus. Ce sera une meilleure couverture. Ce sera un objet de meilleure qualité, etc., etc.
Alors, question. Je suis auto-entrepreneuse. Je lance une campagne de crowdfunding pour financer mon projet. Du coup, quel est mon statut juridique? Quelles sont mes obligations comptables? Comment je dois traiter, par exemple, en comptabilité, les fonds reçus par Ulule? C'est quand même 500 000 euros, parfois 1 million d'euros, c'est pas rien.
c'est une très bonne question, surtout que le fait de parler de plateforme de dons fait qu'il y a souvent une incompréhension. Et il y a beaucoup de gens, même d'entreprises, qui pensent qu'il n'y a pas de fiscalité liée à ce que vous collectez en crowdfunding et que c'est que du don. Ce n'est pas vrai. Donc, effectivement, le traitement fiscal et comptable des dons, il dépend du statut juridique que vous avez. Ce n'est pas la même chose si vous collectez en tant que particulier, asso, entreprise. Si vous êtes en une auto-entreprise, en fait, ce que vous collectez, c'est du chiffre d'affaires. Oui. Donc, voilà, c'est à déclarer. Et si vous faites de la prévente d'un produit, il ne faut pas oublier de prendre en compte dans votre budget la TVA qui est associée aux préventes que vous faites.
Oui.
Sur les dons, bien sûr, il n'y a pas de TVA, mais par contre, sur les produits que vous prévendriez, il y a de la TVA à prendre en compte. Donc ça, c'est important de l'avoir
en
tête.
C'est la grande différence, alors, avec la banque. Parce que quand la banque va vous prêter de l'argent, ce n'est pas du chiffre d'affaires, mais c'est un prêt à la banque avec des frais financiers remboursés. Alors que dans le cas du crowdfunding, on va recevoir des fonds du crowdfunding qui sont vus comme du chiffre d'affaires. Et dans ces cas-là, comme c'est du chiffre d'affaires, vont arriver derrière ça la fiscalité relative au chiffre d'affaires.
Oui, effectivement,
et les frais.
Faut l'avoir en tête.
J'ai lu par exemple, vous êtes auto-entrepreneuse, vous lancez votre projet, vous avez des documents à mettre à jour, à tenir, un registre des recettes, un registre des achats.
C'est le cabinet comptable qui va gérer toute cette organisation.
Donc voilà, il faut prévoir une comptable.
Quand on parle du niveau de complexité, mais enfin de sophistication d'une campagne de crowdfunding, il faut se dire qu'il faut arriver à un tel niveau d'expertise que bien sûr qu'il faut un cabinet comptable. Enfin, je veux dire, il faut une vraie organisation. Pardon si j'ai un peu tendance à...
On ne peut pas
être un petit micro-entrepreneur chez lui à la maison avec un micro-projet, sans comptabilité, sans un minimum d'organisation juridique et fiscale. C'est pas possible.
Nous-mêmes, on renvoie les gens effectivement vers des experts comptables quand ils nous posent des questions sur la fiscalité.
J'ai vu aussi que... Donc, je reprends mon exemple. Mon auto-entrepreneuse, elle doit théoriquement émettre des factures à destination des personnes qui ont financé son projet, en théorie.
La réalité, c'est que les gens ne le font pas en général.
Parlons de choses un peu sérieuses, effectivement.
Ouais, ouais.
À partir du moment où le crowdfunding est perçu comme du chiffre d'affaires, alors ces sommes-là doivent faire l'objet d'une facture, et selon les activités, avec ou sans TVA. Selon les activités, absolument.
D'où l'intérêt d'avoir une comptable.
Tout à fait, pour la partie post-campagne. Et, ouais.
On fait appel à de l'épargne publique. Et il y a quand même, dans ces aspects de l'épargne publique, des vrais sujets de gestion administrative pour être fiable, quoi, c'est tout.
Et c'est important de l'avoir en tête, même si ça se passe après, une fois que vous avez collecté les fonds et que vous devez gérer ça. Il y a parfois des projets qui sont portés par des auto-entreprises ou des entreprises, des gens qui n'avaient pas anticipé en fait toutes ces taxes.
Je présume que c'est le rôle du coach de chez Nul de.
On les met en garde là-dessus, mais nous voilà, on fait pas de conseil fiscal en revanche.
Non, c'est pas le sujet.
Donc voilà, on les invite dans leur budget à penser à bien tout budgétiser. Donc ça c'est important de l'avoir en tête avant de se lancer, ça c'est sûr.
Ok. Alors qu'est-ce qui se passe alors, Lucille, si le projet n'a finalement pas abouti? Alors donc, un, on a récolté les fonds, on a payé tous les gens à qui on devait de l'argent pour aller au bout du projet, et le projet n'aboutit pas. Est-ce qu'il y a des clauses qui sont prévues à cet effet, ou est-ce que je dois rembourser mes contributeurs, je dois m'endetter d'un autre côté pour rembourser
les gens qui m'ont apporté les sous?
Alors déjà, c'est un cas assez rare, heureusement. Non,
c'est surtout une question très française. Oui. Ici, ça ne marche pas.
Oui.
Bon, j'aurais préféré poser une question dans l'autre sens, mais bon.
Bah, normalement, nous, on essaye aussi de faire tout ce qu'il faut pour se prémunir de ça, dans la mesure où, en général, les gens qui se lancent sont à un stade assez avancé de leur projet, ce qui fait qu'ils ont vraiment bien budgétisé ce dont ils avaient besoin pour pouvoir réaliser le projet et livrer les gens. Donc normalement, il y a peu de risques. On a pu avoir des cas sur des projets plutôt assez technologiques, avec un processus industriel qui peut être un peu plus complexe, et où là, en fait, finalement, les projets n'étaient pas aussi avancés que prévu. Il y a eu des retards, des changements de programme, notamment au moment du Covid. Il y a eu certains projets qui en ont fait les frais. Et je pense notamment à une marque d'électroménager durable qui avait fait une très belle campagne, qui avait collecté plus de 200 000 euros et qui, finalement, n'a pas pu livrer les gens puisqu'elle était mise en liquidation. Donc dans ces cas-là, malheureusement, l'argent est perdu, puisque si on est dans un cas de figure où l'entreprise a dû mettre la clé sous la porte et qu'elle ne peut pas rembourser, c'est le mandataire judiciaire ensuite qui s'occupe de gérer le reste.
C'est ce qu'on appelle du financement participatif. Voilà, chacun prend son risque d'accompagner une aventure industrielle ou commerciale, et chacun prend le risque de mettre des sous dans un projet qui, s'il aboutit, porte ses fruits et peut être rémunérateur pour ceux qui ont contribué. Et si le projet...
Et c'est super.
C'est ce qu'on appelle prendre son risque.
Voilà, soutenir comporte des risques, effectivement.
Exactement.
Et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on rappelle aussi quand les gens contribuent. On rappelle que Ulule, c'est pas un site de e-commerce, en fait, et que vous soutenez des créateurs et des créatrices à lancer leur projet, et qu'il peut avoir un risque, effectivement, de non-livraison. C'est
absolument
rare, mais ça arrive.
Bah oui.
Donc, tout à l'heure, on a déjà parlé un petit peu des contreparties au don, sorte de récompense. Vous pouvez nous en dire plus, nous donner des exemples, un petit peu un florilège des contreparties que vous avez vu passer, des plus classiques aux plus dingues.
Avec plaisir. Alors, il y a trois grands types de contreparties. Il y a ce qu'on appelle d'abord les contreparties symboliques. Donc là, ça va être vraiment du remerciement sur les réseaux sociaux, ou par exemple, vous ouvrez une épicerie, un restaurant, vous pouvez afficher le nom des donateurs dans votre lieu. Si vous financez un livre, vous pouvez mettre à la fin le nom de toutes les personnes qui vous ont soutenu. Pareil pour un documentaire. Donc voilà, ça c'est plutôt de l'ordre du symbolique, mais ça plaît souvent. Voilà, ça permet aux gens de les inclure, de leur faire partie d'une communauté, d'un projet. Ensuite, il y a les contreparties plutôt expérientielles, comme on les appelle. Donc ça peut être par exemple, vous ouvrez un lieu, vous pouvez inviter les gens à une soirée d'inauguration du lieu. Voilà, tout un tas d'événements physiques qui peuvent être en lien avec votre projet. Donc pour les lieux, c'est souvent assez adapté. Ou par exemple, vous financez un documentaire ou un court-métrage, vous pouvez inviter les gens à l'avant-première du film. Donc voilà, c'est des contreparties expérientielles classiques, assez attendues sur des projets audiovisuels, par exemple. Et enfin, il y a ce qu'on appelle les contreparties matérielles. Donc voilà, qu'on retrouve plutôt souvent, et notamment dans le cadre de campagnes de pré-vente, puisqu'en fait, c'est ce que les gens attendent si vous lancez votre marque de
t-shirt féministe,
Made in France, ou de baskets éco-conçues faites à partir de déchets plastiques, par exemple. La personne, ce qu'elle va vouloir précommander, c'est votre produit.
Avant qu'on le trouve en magasin.
Exactement. Très souvent, vous allez proposer des tarifs préférentiels avant qu'il soit sorti, etc. Vous le recevez en avant-première. Pareil, si vous financez un livre, une BD, voilà, là, la contrepartie matérielle, ça va être le livre, votre BD. Donc, en fait, il y a tout un tas de contreparties qui peuvent être à imaginer. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est qu'il faut vraiment trouver des contreparties en lien avec votre projet.
Ouais.
Des choses exclusives, des choses qui font sens dans le cadre de ce que vous financez et qui vont donner envie aux gens. Il ne s'agit pas nécessairement de créer tout un tas de goodies dans le cadre d'une campagne si ce n'est pas, en fait, le cœur de votre projet.
Oui.
Voilà.
Donc, j'ai reçu des contributions, mon prochain avance. Quelle est la fiscalité qui va s'appliquer aux contributions que j'ai reçues? Donc, on disait tout à l'heure que finalement, c'est comme du chiffre d'affaires. Donc, il faut émettre des factures et c'est la fiscalité de chiffre d'affaires. Quoi,
voilà, ça va dépendre quand même du statut avec lequel vous portez la campagne.
Absolument.
Il faut savoir qu'en crowdfunding, il y a quand même beaucoup de projets qui sont portés par des particuliers parce que c'est des gens qui ne sont pas forcément encore... complètement avancé dans leur projet. Et donc, voilà. Si vous avez collecté en tant que particulier, c'est pas la même chose. Là, vous devez le déclarer aux impôts. Et si vous êtes une association, voilà, c'est du don.
Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, quoi.
Rien de nouveau sous le soleil.
On reçoit des contributions.
On doit les
déclarer. Fonction de la forme juridique de l'entreprise, ben, elles vont s'appliquer de tel et tel régime fiscal. Elles doivent être déclarées, quoi qu'il advienne, de telle ou de telle manière. Et puis voilà, quoi.
Tout à fait. Absolument. Exactement.
Bon.
Et les contributeurs, alors, ceux qui donnent, eux, est-ce qu'ils ont des obligations juridiques?
Eh ben non. Dans leur cas, vous, en tant que contributeur ou contributrice, Vous n'avez pas nécessairement d'obligation.
Ils apportent de l'épargne.
Voilà.
Et je donne une grosse somme, par exemple. Je donne une grosse somme.
Tu peux considérer que c'est un don, à la condition que...
On peut la déduire de ses impôts?
Effectivement, bonne question. Pas toujours. Là, c'est aussi... vu qu'on parle de plateforme de dons, on a souvent tendance à penser que peu importe le projet auquel je donne, mon don est déductible d'impôts. C'est pas le cas. Votre don peut être déductible d'impôts seulement si vous faites un don à un projet qui est porté par une association reconnue d'intérêt général et habilitée à émettre des reçus fiscaux et qu'elle le propose.
D'accord. Et quand on fait aussi une augmentation de capital?
C'est-à-dire?
Une entreprise existe déjà, elle fait une augmentation de capital, elle fait appel à l'épargne publique. Comme on va apporter de l'argent à cette société, je crois qu'il y a un petit avantage fiscal relatif à...
Alors, en crowdfunding?
Alors, je sais pas si...
Ça se fera pas sur des plateformes comme Ulule. Plateformes de crowdlending, crowd equity. C'est ça,
exact.
Pour le coup, une autre,
autre
forme de fiscalité.
D'accord.
Ouais, okay. Tout à fait.
Donc, je vais lancer un projet en crowdfunding. Quel pourcentage de la somme totale récoltée je dois laisser à la plateforme, par exemple, chez Ulule ou bien sur d'autres plateformes?
Mais chez Ulule.
Effectivement, la tarification, elle n'est pas toujours la même en fonction des plateformes. Nous, sur Ulule, on prend 8% TTC sur l'ensemble des fonds collectés.
Ah oui, c'est 8% TTC.
TTC.
Il vous reste
de la
6...
somme totale récoltée.
Oui, tout à fait. Donc 6,67 hors taxe. En sachant que la commission, elle est dégressive par tranche. Donc pour les projets qui collectent plus de 100 000 euros, on applique aussi... la commission baisse en fonction des fonds qui sont collectés.
Et donc ça fait l'objet d'une facture de Ulule au porteur de projet?
Tout à fait. Tout à fait. À la fin de la campagne, au moment du transfert des fonds, on transfère également aussi la facture de notre commission avec ce détail-là. Tout à fait.
Alors, je me demandais si on peut emprunter de l'argent en crowdfunding pour financer un projet d'entreprise spécifique en alternative aux prêts bancaires traditionnels?
Alors ça, c'est possible, mais c'est d'autres types de crowdfunding. En fait, quand on parle de crowdfunding, il y a plusieurs sous-catégories. Et nous, sur Ulule, les contreparties qui sont proposées, elles ne peuvent pas être financières. Voilà, je vous le disais, il y a des contreparties symboliques, matérielles ou expérientielles. Mais en revanche, on ne fait pas de crowdfunding avec de la contrepartie financière, donc pas de retour sur investissement, pas de prise de participation au capital. Ça, c'est vraiment... d'autres plateformes avec d'autres typologies de projets, d'autres montants levés, d'autres formes de fiscalité, un métier complètement différent finalement.
Mm-hmm. Je vois que ça s'appelle d'ailleurs le crowdlending.
Le crowdlending, tout à fait, pour le prêt, et le crowd equity pour la prise de participation au capital. Donc, c'est des plateformes comme WeSeed, Lita, il y a tout un tas d'autres plateformes qui sont spécialisées sur ce genre de crowdfunding. Voilà, ça va être pour des projets qui sont dans un autre stade d'avancement. C'est des fonds collectés qui vont être en général beaucoup plus importants. Des dons moyens qui sont aussi beaucoup plus élevés.
Bah oui, parce qu'on touche aussi, d'après ce que j'ai vu aussi à l'immobilier, j'ai vu qu'on peut contribuer à une opération de crowdfunding immobilier pour construire ou rénover un immeuble. Donc là, c'est des sommes bien plus
tout
importantes
à fait.
qui rentrent en jeu.
C'est plutôt des campagnes moyennes qui tournent autour de centaines de milliers, voire millions d'euros, alors que sur du crowdfunding comme Ulule, on est sur une campagne moyenne à 5 000 euros, avec des dons moyens à 50 euros. Alors que sur du crowd equity, du crowdlending, les investissements de départ sont plutôt entre 100 et 1000 euros. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes montants.
Donc, les mêmes enjeux. Là, l'intérêt des donateurs, je ne sais pas du coup comment il faut les appeler à ce niveau-là, des contributeurs, c'est de faire du rendement, en fait. C'est d'obtenir un rendement.
Ce n'est pas la même histoire.
Il y a différentes motivations. Donc, effectivement, ça peut rentrer dans leur motivation. Après, c'est aussi, finalement, comme le crowdfunding sur Ulule, une manière de redonner du sens à son argent, de contribuer et soutenir des projets qui nous parlent plus. Effectivement, aussi cette dimension investissement financière. Mais il y a aussi, finalement, les mêmes vertus qu'on retrouve sur du crowdfunding. Comme
immobilier,
Ulule.
Mais vert.
Voilà. Et puis, j'imagine savoir où on investit notre argent. Redonner du sens, en fait, avoir plus de transparence sur les investissements qu'on fait.
Donc, j'ai lu qu'Ulule faisait des formations. Donc, on peut se former en crowdfunding avant de lancer un projet, on peut rencontrer des gens, se faire coacher, préparer, comprendre les enjeux. Racontez-moi.
Formation en crowdfunding.
Et tout à fait. Ça fait maintenant 2 ans qu'on a lancé une activité de formation, en plus de l'activité de crowdfunding. Et donc, on est organisme certifié de formation. Donc, on a une formation spécifique au crowdfunding qui dure 3 jours, où donc les formatrices sont aussi coach, vous aident vraiment à comprendre toutes les mécaniques du crowdfunding, comment ça fonctionne, comment je me prépare, quelles sont les clés de succès. Travailler en amont sur sa campagne. Pour les personnes qui ont besoin d'être assurées ou pour celles qui ont des projets un peu plus ambitieux, on a une formation spécialisée autour du crowdfunding. On en a aussi d'autres sur l'entrepreneuriat, le marketing digital. On a développé toute une offre de formation pour, au-delà d'aider les créateurs à collecter des fonds, les accompagner en amont tout au long de leur projet de création.
Avant qu'on se quitte, Lucille, j'aimerais que vous nous donniez 3 bons conseils pour réussir sa campagne de crowdfunding. Vraiment, pour vous, les 3 meilleurs conseils pour réussir sa campagne.
Alors, le premier, ce qu'on répète souvent, c'est bien se préparer. Hein. Souvent, voilà, les gens se lancent un peu de manière précipitée en pensant et en espérant que voilà, je mets ma page en ligne et que naturellement... la foule d'inconnus va venir découvrir mon projet et contribuer. Ça fonctionne malheureusement rarement comme ça. Donc bien anticiper un peu tout le travail à faire, bien se préparer son rétro-planning, bien penser sa campagne et bien la travailler. Ça, c'est mon premier conseil, je dirais. Voilà, être un peu organisé. Mm-hmm. Le second, c'est le faire à un moment où vous êtes... disponible et engagé pour le faire. Une campagne, c'est pas pour rien que ça s'appelle une campagne. Ça demande beaucoup de temps et d'investissement. Si vous communiquez pas autour de votre projet, voilà, faut se dire que les gens le feront pas pour vous. Donc voilà, il faut pas le faire à un moment de votre projet où en fait vous saurez que vous n'aurez pas le temps.
Il faut déléguer.
Ou faut déléguer. Mais en réalité, même vous, en tant que porteuse du projet...
Déléguer, par exemple, je pensais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, acheter les services d'une community manager, par exemple. Parce que vous, pendant que vous êtes sur vos prototypes, vous ne pouvez pas en même temps être sur les réseaux sociaux.
Voilà, avoir peut-être quelqu'un qui vous aide là-dedans, même si vous, à un moment, vous devrez aussi mettre à la main, à la patte, vous-même aller solliciter votre communauté en tant que créatrice du projet. Donc c'est sûr que des choses peuvent être déléguées, mais savoir que pour l'équipe, la personne ou l'équipe qui lance le projet, le faire à un moment où elle a du temps et où elle sera investie pour le faire, réussir, enfin, engager et fédérer un maximum toute l'équipe au moment du lancement. Et puis le dernier, c'est peut-être justement, oui, bien s'entourer, puisque une campagne, ça demande beaucoup de compétences diverses et variées. Et nous, on le voit. Enfin, ça peut se mener aussi de front tout seul. Hein. Ça va dépendre, bien sûr, des objectifs que vous
visez. Oui, si vous dormez jamais, c'est possible.
En fait, ça dépend aussi de plein de choses, là, tout ce qu'on dit. Enfin, voilà, aller collecter 1 000 euros, c'est pas pareil qu'aller en collecter 10 000 ou 50 000 ou 100 000. Donc, en fonction des objectifs que vous avez, voilà, il n'y a pas le même effort et la même énergie qui est nécessaire. Mais dans tous les cas, une campagne, ça prend quand même du temps. Et puis, voilà, émotionnellement, ça peut être aussi un petit peu intense. Mais, bon, dans tous les cas, c'est toujours une très bonne expérience. Les gens nous disent que ça leur permet de vivre un peu l'entrepreneuriat de manière accélérée, de recueillir beaucoup de feedback, plein de retours de la part de proches, mais même au-delà.
Mais je pense que c'est très, très formateur d'avoir une grosse communauté importante qui pose des questions dans tous les sens sur le projet.
Ça nous
oblige en tant qu'entrepreneur à être didactique, mais aussi être capable de comprendre les préoccupations de tous ces gens qui viennent, qui approchent.
Être capable aussi de se remettre en question, en question le projet. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui finalement n'atteignent pas leur objectif et réussissent à comprendre en fait grâce à cette campagne pourquoi ça n'a pas fonctionné. voilà. Après, il y a plein d'autres choses que je pourrais dire, mais si je résume, c'est bien se préparer, bien s'entourer, et voilà, le faire avec envie et avoir du temps au moment où vous lancez. Et finalement, en vous préparant, vous découvrirez aussi toutes les autres bonnes pratiques, bonnes mécaniques pour lancer et réussir votre campagne.
Et y croire.
Et y croire.
Et y croire, et croire en ses amis, aux amis de ses amis,
voilà.
Son projet, d'abord son projet, oui. Et c'est la fin de cet épisode sur le crowdfunding. Merci à nos auditrices et à nos auditeurs d'avoir écouté cet épisode. On espère que vous avez appris plein de choses sur ce financement qui permet de faire appel à des dons, des prêts, voire des investissements au capital de votre entreprise, et tout ça hors circuit bancaire classique. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à partir de votre appli Spotify, Apple Podcasts ou Deezer entre autres. Abonnez-vous à notre podcast. Parlez-en à vos copines, votre sœur, vos cousines, vos collègues, votre fille, votre mère, votre grand-mère. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des étoiles. Vous pouvez aussi retrouver les conseils de Thierry dans les livres qu'il a coécrits, Les filles osons parler argent chez Duno et aussi L'argent au féminin aux éditions Ellipse. Vous pouvez également nous contacter via LinkedIn et par notre compte Instagram Argent Parlons Cash les filles. Et on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode de Argent Parlons Cash les filles.